Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Journal. Belinda Bosuma.
Venant de l'apprendre, naufrage d'une pirogue le week-end dernier dans la rivière Lulua au Kasaï central. 8 personnes portées disparues. Il s'agit des femmes qui traversaient la rivière pour leurs activités champêtres, rapporte l'administrateur de Demba. Une accalmie s'observe à Kikoura, dans le territoire de Beni au nord Kivu, au lendemain de l'attaque des présumés ADF. Attaque qui a fait une vingtaine de morts. L'armée annonce avoir neutralisé 18 éléments ADF ainsi que la libération de 12 otages, tous des enfants. Et puis, l'invité de ce midi, Vincent Semoussikouli, coordonnateur de l'ONG Hopeworks, ou Espoir de marché, il nous parle du traitement de la malformation congénitale appelée Piebo, ce à l'occasion de la remise de plus de 860 enfants guéris à leur famille après 5 ans de prise en charge médicale et psychologique de ces enfants. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Kasaï central. 8 personnes sont portées disparues après le naufrage d'une pirogue le week-end dernier dans la rivière Lua, dans le territoire de Demba. Les victimes sont des femmes qui ont été emportées par un courant d'eau pendant qu'elles faisaient la traversée pour les activités champêtres, a indiqué à Radio Kapi l'administrateur de Demba. Christophe Sakaji souligne que les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus, une occasion pour lui de demander à sa population d'éviter des petites pirogues qui d'ailleurs sont destinées à la pêche. Christophe Sakaji l'a dit au téléphone de François Kadima.
Nous avons déjà délégué une équipe de la police qui est déjà sur place en train de faire des enquêtes. Il y a eu confirmation quand même de 8 personnes qui sont noyées dans la rivière Lua, dans le groupement de Benetchi, dans le secteur de Chiboté. Et les corps n'étaient pas encore retrouvés jusqu'au hier soir. Alors on est en train de rechercher. Je demande à la population de se maintenir parce que des fois, il y a des petites pirogues pour les pêcheurs qui sont en train d'utiliser pour la traversée. Et déjà, la traversée là-bas n'est pas officielle. Jusque-là, il n'y a pas une pirogue officielle reconnue par l'État. Et aussi, je demanderai à cette population, s'ils veulent faire leur champ, qu'on fasse quand même des grandes pirogues. Comme ça, ça peut nous aider aussi de sacrifier les corps humains que nous devons perdre comme ça, surtout les mamans qui sont des progénitures de demain, et nous devons les perdre comme ça.
Naufrage aussi en Ituri, une embarcation transportant 70 tonnes de marchandises en provenance de l'Ouganda a chaviré hier au lac Albert vers la localité de Chomia. Selon le commissariat lacustre, un vent violent qui a soufflé dans la région est à l'origine de l'accident qui a entraîné des dégâts énormes. Des sources locales indiquent que 3 autres embarcations de commerçants congolais ont été détruites par le vent le même jour à Toroko en Ouganda. Isaac Remoyope nous raconte.
Cette embarcation en bois transportait 50 tonnes de riz, 300 caisses de bière et 150 caisses de boissons gazeuses en provenance de l'Ouganda. Après environ 5 heures de navigation sur le lac Albert, elle est arrivée dimanche soir à quelques mètres de la rive congolaise à Chomia, à 60 km aussi de Bunia dans le territoire de Djougou. Selon des sources locales, l'armateur n'a pas été autorisé à décharger les marchandises. Pendant la nuit, un vent violent soufflait sur le lac et toutes les marchandises ont été englouties dans l'eau. Une autre embarcation d'un commerçant congolais qui devrait quitter hier matin les ports de Toroko en Ouganda a également chaviré avec à son bord 70 tonnes de marchandises. Des autres navires vides ont été complètement détruits par les vents. Le commissaire lacustre indique que la plupart de ces embarcations en bois sont vétustes et échappent au contrôle des services spécialisés. Oulard Oulama ajoute que la surcharge et les voyages nocturnes sont à l'origine de nombreux cas d'accidents sur le lac Albert. Il demande aux armateurs de respecter les mesures de sécurité, surtout pendant les mois de mars et avril où des vents violents soufflent généralement dans la région. Pour rappel, de nombreux commerçants Ituri passe par le lac Albert pour échapper aux exactions de la milice Codeco sur les tronçons Bunia-Mahagi. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Parlant des naufrages par-ci par-là, le directeur technique de la régie des voies fluviales appelle les armateurs congolais au strict respect de la réglementation qui régit le secteur de la navigation. Il déplore le fait que ces embarcations de fortune qui ne répondent pas aux normes naviguent surtout la nuit alors que c'est formellement interdit. Gabriel Mokango a été joint au téléphone par Cynthia Bachizi.
Quand de tels cas arrivent, dans plus de 90%, c'est le non-respect de la réglementation. C'est-à-dire, on a surchargé la baleinière, la pirogue, ou parfois on a mis des pirogues de manière juxtaposée. et ce qui fait que les personnes qu'on transporte qui ne sont pas déclarées sur le manifeste et les poids de marchandises font que l'unité sombre par moment. Mais il y a aussi un élément très important à ajouter, c'est la plupart de ces gens-là, quand ils rencontrent de tels accidents, cela arrive la nuit. Mais l'autorité a déjà pris un arrêté pour interdire toute navigation de la nuit, surtout pour ces unités de fortune qui ne remplissent pas les conditions de la construction navale. Parce qu'une unité bien construite doit avoir du côté tribord, donc du côté droit, un feu vert, du côté bâbord, côté gauche, un feu rouge. Ils utilisent des torches, mais dans l'obscurité, parfois ils ne voient pas. Ou quand ils constatent qu'il y a un obstacle, c'est à quelques mètres. Donc nous ne pouvons pas toujours indexer l'état.
Dans l'actualité aussi, le gouvernement congolais interdit aux sociétés Mino Congo, Snips, Chalupa la Mama, Rani ainsi que Super Nourriture d'importer des biens de grande consommation en RDC. Cette décision est contenue dans une correspondance parvenue hier à Radio Kapi, document signé conjointement par le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba et son collègue de commerce Jean-Lucien Boussa. Selon le document, cette mesure vise d'une part à assainir le secteur d'importation des biens de grande consommation et d'autre part à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs contre la fraude et la spéculation. La même source précise que l'Association des banques congolaises, ACB, et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, BCC, ne doivent plus délivrer des licences d'importation à toutes ces sociétés susmentionnées et doivent suspendre les licences en cours. Je vous le disais en titre, le calme est revenu à Kikoura, localité du groupement Banyangala, secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni. Nous sommes bien au nord Kivu, cela 24 heures après l'attaque des présumés ADF dans la nuit de dimanche à hier lundi. Attaque qui a fait une vingtaine de morts, tous des civils. Lancée dans la poursuite des assaillants, l'armée annonce avoir neutralisé 18 éléments ADF, dont un de leurs chefs. Elle annonce aussi la libération de 12 otages, tous des enfants. André Kitenge nous en dit plus.
Après l'attaque qui a coûté la vie à au moins 20 civils, un calme relatif est revenu à Kikoura. Les habitants qui ont fui la localité pour se réfugier en Ouganda commencent à regagner timidement leur milieu ce mardi, indiquent les sources de la société civile. L'armée de son côté annonce avoir neutralisé 18 rebelles ADF lors de la poursuite de ces derniers, dont un de leurs chefs. L'armée parle aussi des armes récupérées, des 12 otages libérés, tous des enfants, ainsi que des 4 ADF capturés. Mais pourquoi ces derniers jours, les ADF si ciblent-ils les civils dans une zone avec une forte présence militaire, notamment les FRDC et l'UPDF? Écoutez à ce sujet la réponse du capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1.
Les tueries se justifient par le vouloir de l'ennemi de se confirmer. À part ça, l'ennemi qui embrousse a besoin de survivre. Donc l'ennemi a besoin de quoi manger, l'ennemi a besoin de médicaments pour soigner ses blessés. C'est pourquoi à chaque fois que l'ennemi fait l'incursion, l'ennemi ne tire pas à bas réel, il tue avec des machettes et quand l'ennemi tire en l'air, c'est-à-dire il est en train de partir déjà. Et c'est ces moments-là que nos forces sont alertées et quand on arrive, parfois il faut suivre l'ennemi et c'est ce que nous avons fait.
André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Restons en Nord Kivu. Un opérateur minier bien connu dans la ville de Goma est mort le week-end dernier dans des circonstances non encore élucidées qui impliqueraient, selon la société civile, un cadre de l'Agence nationale des renseignements ANER. Les enquêtes sont ouvertes par la police pour faire la lumière sur ce cas. Le commanditaire présumé de ce crime reste introuvable. Le point avec Gabriel Wamenia.
Les flous planent encore sur les circonstances exactes de la mort de l'opérateur minier connu sous le nom de Kalanga Biscuit, vivant au quartier Ndosho. La société civile et les mouvements citoyens Congo Conscience qui confirment le décès de cet opérateur économique ont du mal à donner avec exactitude les lieux du drame, moins encore les conditions dans lesquelles la victime a été tuée. Mais les sources proches de la famille précisent que la victime aurait été appelée ce dimanche aux environs de 12 heures par des tierces personnes pour des opérations de transactions minières. Quelques heures après, la famille reçoit un coup de fil leur annonçant le décès de leur père selon les mêmes sources. Exaspérée par la colère, la famille aurait retiré la dépouille mortelle de la morgue et va la transporter jusqu'à la résidence de l'agent de l'ANR située sur l'avenue Mission près du bistrot communément appelé Bateau Vert dans le quartier Imbi. Pour l'instant, ce cadre de l'ANR reste introuvable et sa disparition alimente grandement les soupçons selon lesquels il serait parmi les commanditaires de ces crimes. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Direction la province du Kwilu, recrudescence de la criminalité dans la ville de Bandundu. Le phénomène Kuluna refait surface avec intensité ces derniers jours. Le maire de Bandundu, qui en déplore les conséquences, vient de lancer l'opération Traque des Kuluna pour mettre hors d'état de nuire ces bandits. Pour lui, cette opération va s'y faire conjointement, police nationale FARDC, y compris toutes les autres forces de sécurité, dans le but de sécuriser la population. Des détails avec Irène Boma.
Ces malfrats, communément appelés Kuluna, enlèvent la quiétude des paisibles citoyens en commettant plusieurs forfaits ces derniers temps dans la ville de Bandundu. Le maire de la ville, qui s'est dit préoccupé, a lancé une opération mixte police FRDC pour traquer ces inciviques afin de réduire tant soit peu ces taux élevés de criminalité dans la ville. Ephraim Kinda Aboui.
Les inciviques sont en train de perturber l'ordre public. Ils ne perdent personne. Ils font de n'importe quoi. Ils volent, ils pillent, et ils ont même quelques objets militaires. Ce que nous avons déploré avant-hier, il y a eu mort d'homme. Les Kuluna se sont battus entre eux. Alors, il y a un garçon qui passait, on l'a égorgé. Alors, comme ça, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pourquoi, pour la vie, nous avons pris la décision de mettre nos éléments 24 heures sur 24 pour veiller, pour protéger la population. L'opération consiste à traquer les Kuluna, les arrêter et les acheminer à Kinshasa et Kinshasa, Kanyamaka, c'est. Nous irons jusque vers les fins fonds pour les arrêter.
L'autorité urbaine de Bandundu appelle sa population au calme et à dénoncer toutes les cachettes de ces hors-la-loi. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Du côté de Lomami, dans la ville de Cabinda, les motocyclistes sont interdits de circuler avec leurs engins de 22h à 5h du matin. Cette décision est contenue dans un arrêté publié le week-end dernier par le maire de la ville. Joseph Kazadingoy affirme que cette disposition a pour but de lutter contre la criminalité dans la ville de Cabinda. Le maire Joseph Kazadingoy, joint par Esther Dalafina.
Il y a presque 2 à 3 mois, la ville héroïque de Cabinda est secouée par l'insécurité, des cas de vol ça et là, ça prenait de l'ampleur inquiétante, au point où on assistait au coup de balle. La population commençait à faire le soir. J'ai réunis le conseil de sécurité urbain. À l'issue de cette réunion, un train de mesures a été pris. Nous avons commencé avec la patrouille mixte renforcée. J'ai compris que dès qu'il est seulement 23 heures, vous sentez que les mouvements de moto s'accentuaient davantage. Il y a un magasin qui a été volé. On a pris 303 pièces d'armes. Nous avons compris que ce sont les motos qui s'acquittaient la sortie des biens volés vers d'autres endroits, au-delà de la ville. Comme le maire agit par la voie d'arrêté, j'ai pris un arrêté qui réglemente la circulation, le déplacement des motos. En cas de maladie, oui, on tolère. Et au niveau des péages, dès que vous êtes là à partir de 22 heures, vous vous stoppez là-bas, vous entrez la journée. Et la mesure va aller même très bien. Ça va concerner même les kinés, même certaines églises.
Sud Kivu à présent a ouvert à aucun incident majeur enregistré depuis le matin en dehors des coups de feu qui ont été entendus dans les quartiers Nyamianda, Kimanga et Kalimabenge. Les FARDC ont tiré des tirs de sommation pour disperser une foule de jeunes qui tentaient de barricader la route nationale numéro 5 sur le pont Kalimabenge. Une jeep des militaires qui transportait ces soldats s'est renversée pendant la intervention. Par ailleurs, la journée ville morte est observée dans la ville et le territoire d'Uvira ainsi qu'à Baraka. Fiston Goma pour le reportage.
La situation reste la même depuis le matin. Pas de transport en commun, y compris des taxis motos. Toutes les banques et COPEC ont fermé, ainsi que le parquet des grandes instances d'Uvira. Au niveau de l'hôtel de ville, certains services ont organisé un service minimum. Dans la majorité des écoles, aucun enfant ni enseignant ne s'est présenté par peur d'être victime des jets de pierre. Les hôpitaux en service minimum, partout à travers la ville, les forces de l'ordre sont positionnées à certains points chauds, pendant qu'une jeep de la police nationale congolaise circule entre les deux extrémités de la ville, Kalundu Port et Kavivira, pour prévenir les barricades de la route. Le président de la nouvelle société civile congolaise, André Biadounia, affirme qu'en solidarité avec Bukavu, les structures citoyennes d'Uvira réclament la démission du gouverneur Théo Ngwabidje. D'après lui, les sinistrés ont été abandonnés à leur triste sort. Les lotissements n'avaient été qu'un mirage. Toutes les routes n'ont pas été réhabilitées pendant les 3 ans du règne de Ngwabidje, qui a signé en plus un arrêté réglementant les frais scolaires de 3 à 90 dollars américains, ce qui a ouvert une brèche aux gestionnaires des écoles de revoir à la hausse les frais, loin au-delà de la bourse de petit gagne-pain d'Uvira. Ajouté à cette liste, la criminalité urbaine en hausse. Le maire de la ville, Kiza Mwato, a interdit cette ville morte, appelant sa population à vaquer à ses occupations. Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
à Bukavu. La population locale s'est réveillée ce mardi dans la confusion suite aux multiples appels contradictoires des organisations de la société civile à la journée ville morte. Le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu voulait pousser le gouverneur à démissionner. Il reproche à Théo Ngwabidje la mauvaise gestion. Toutes les grandes écoles de la ville ont ouvert, sauf les universités et les institutions des microfinances. Ce mardi matin, les élèves se sont rendus dans leurs écoles respectives où les cours se sont déroulés normalement. Les vendeurs au marché de Bukavu ont adopté la même attitude pour préserver leurs biens en cas d'éventuel débordement. Les taxibus circulent sans entrave sous le regard des éléments de la police déployés le long des artères principales de la ville de Bukavu.
Actualité internationale.
Sixième jour de l'invasion russe en Ukraine. Le centre-ville de Kharkiv, deuxième ville de l'Ukraine, a été bombardé. Un second tour des pourparlers est envisagé par la Russie et l'Ukraine. Après le début des négociations en Biélorussie hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à interdire la Russie de tous les ports et aéroports du monde. Burkina Faso, après plusieurs heures de discussion, les 350 délégués ont adopté la charte de la transition qui a été ensuite signée par le président. Les participants ont décidé d'une durée de 3 ans pour la transition avant les élections, alors que la commission technique avait proposé 30 mois.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Vincent Semoussikouli, coordonnateur du counseling chez Opworks ou Espoir des marchés. Il nous explique comment on peut traiter et guérir définitivement la malformation congénitale appelée Piebo. Mathieu Ilunga s'est entretenu avec lui à l'occasion de la remise à leur famille de plus de 860 enfants guéris après 5 ans de prise en charge médicale et psychologique. Suivez.
Monsieur Vincent Semoussikouli Mwenge, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes.
Comment est-ce que nous pouvons comprendre le Piebo?
Le Piebo, c'est une malformation congénitale qui fait que, au lieu que l'enfant puisse marcher sur la plante des pieds, il marche sur les dos des pieds. Et vous voyez les adultes qui ne sont pas traités, qui ont même la difficulté d'avoir les souliers. Et nous soignons ces genres d'enfants qui durent généralement 5 ans pour qu'ils puissent marcher normalement comme toute personne qui naît normalement.
Depuis que vous avez commencé les traitements, on peut avoir l'idée sur les statistiques de ce que vous avez déjà fait.
Les statistiques pour l'année 2021, nous avons soigné dans l'ensemble 834 enfants, dont 464 donc garçons et 370 filles. Vous comprenez que la prédominance est plus élevée chez les garçons. Ça veut dire qu'il y a plus de garçons à pied beau que les filles.
Quelle est l'origine de cette maladie?
Selon les études menées, les causes réelles des piebos ne sont pas connues. Cependant, on pense que les piebos seraient liés d'abord par les faits héréditaires. Ça veut dire naître dans une famille où il y aurait un parent ou un arrière-parent qui aurait les piebos peut aussi vous prédisposer aussi à développer les piebos. Ce qui n'est pas nécessairement évident parce qu'il y aurait les enfants qui naissent dans les familles où il y a les parents qui ont les piebos, mais eux ne naissent pas avec les piebos. C'est pour dire que ce n'est pas une cause réelle, mais on marque d'abord l'hérédité. À part l'hérédité, on manque aussi les facteurs environnementaux. Actuellement, les observations que nous sommes en train de mener par rapport à ce que nous faisons au niveau de la RDC par exemple, c'est que les enfants qui naissent dans des zones où il y a beaucoup d'atrocités. Donc là, je vous cite Beni, je vous cite Oicha, Mangina, partout là où nous intervenons. Nous constatons qu'il y a une certaine montée. Donc les facteurs environnementaux font que certains enfants puissent naître avec les pieds beaux. Mais il y aura aussi les conditions d'accouchement ou les conditions, l'état de grossesse de la femme. Tous ces genres de facteurs-là environnementaux peuvent faire à ce que l'enfant puisse naître avec les pieds beaux.
Donc concrètement, comment vous traitez le pied beau?
Dans Hopworks, nous utilisons une méthode dénommée Ponseti. Ponseti, c'est un docteur qui nous avait proposé ce genre de traitement et c'est maintenant une méthode qui est internationale. Elle consiste à utiliser 2 étapes principales. La première étape, c'est les plâtrages. Nous faisons 6 à 8 plâtres, donc nous avons les rendez-vous une fois par semaine avec l'enfant pour changer les plâtres. Après que nous ayons utilisé les plâtres, nous utilisons aussi les attelles. Les attelles, ce sont des souliers spéciaux que nous donnons aux enfants et ils les portent. Il y aurait des attelles de nuit, les attelles de jour. Avec ça, nous vérifions régulièrement s'il y a une bonne évolution. Mais il faut aussi confirmer que pendant la période de plâtrage, s'il y a nécessité, nous faisons une petite intervention chirurgicale que nous dénommons la ténotomie. Donc c'est une petite opération qui n'est pas tellement douloureuse pour aider à la correction du pied de l'enfant. Donc c'est ça en bref par rapport au traitement des pieds beaux.
Pourquoi vous dites que ce traitement traitement demande assez de temps, 5 ans avant de remettre cet enfant.
Pour les plâtres, par exemple, il faut près d'un mois et demi ou 2 mois, ça dépend d'un enfant à un autre. Maintenant, nous prenons beaucoup de temps au niveau des ports des attelles, parce que vous comprenez que c'est une grande correction. Donc, on marche sur les dos des pieds, mais on doit corriger pour que l'enfant puisse commencer à marcher sur la plante des pieds. Et que donc, l'enfant passe beaucoup de temps sous les ports d'attelle. Donc, vous comprendrez que ça prend généralement plus de 4 ans des ports d'attelle. Mais là, vous comprenez que les parents ne viennent pas tout le temps à l'hôpital. Là, ils restent plus à la maison. Parce que pendant les attelles, on peut contrôler après un mois, après un trimestre, après un semestre, ainsi de suite. Et là, l'enfant est dans la communauté, en train de jouer avec les autres, mais sous suivi des hope walks par rapport au traitement.
La prise en charge de ces traitements, ça commence par l'hôpital ou c'est un traitement ambulatoire?
Le traitement est en ambulatoire. Ça veut dire que les parents nous amènent les enfants. Par exemple, ici chez nous, à Île Africa, c'est chaque jeudi. Ils viennent selon leurs étapes. Il y a ceux qui viennent commencer, il y a ceux qui viennent pour les contrôles, pour les suivi, ainsi de suite, mais d'une façon succincte, c'est que nous les faisons en ambulatoire. Les traitements des enfants à pied beau est en 50% médical et en 50% counseling. Et nous avons 11 cliniques au niveau de la RDC où nous soignons les enfants à pied beau dans 4 provinces. Donc, au nord Kivu, nous sommes à Île Africa, à Goma, Kaina, à Butembo, à Beniville, à Oicha, mais aussi à Mangina. Dans la province d'Ituri, nous sommes à Bunia. Et dans la province de Maniema, nous sommes à Kindu. Dans la province du Sud Kivu, nous sommes à Bukavu, mais aussi à Uvira.
Nous vous disons merci.
Merci aussi.
Ce journal est terminé, mais avant de clore complètement, sachez qu'une grosse pluie a arrosé la capitale Kinshasa depuis tôt ce matin. Et comme conséquence, cet avant-midi, 4 membres d'une famille sont morts la nuit au quartier Ndano, dans la commune de Limété. Le bourgmestre de cette commune parle de plusieurs dégâts matériels dans plusieurs quartiers longeant les rivières. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci de rester branchés sur la fréquence de la paix.